Agdama, quoi.
Allez, vas-y.
Agdama. Alors, il commence comme ça, le Maral, il commence comme ça. Il ramène un pasouk dans Yirmiya. Hine yamim baim velo yeomar chay Hashem asher ela et Yisrael meret Mitzrayim kim chay Hashem asher ela v'asher hevi et zera bet Yisrael meret Tzfona u'mikol haratzot asher dartim shama. Des jours viennent, et on ne dira plus viva Dieu qui a sorti, qui a fait monter les bénis Israël d'Égypte, mais on dira vive Dieu qui a fait monter et qui a amené la descendance de la maison d'Israël, des terres du nord et de toutes les terres où il a été éparpillé là-bas, où il a été repoussé là-bas. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une rupture, c'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à là, on parlait de Eret Mitzrayim, et après, on dit, maintenant on parlera plus de Yitzhak Mitzrayim, on parlera de la Geoula Atida. Et dans le premier perek de Brachot, une des Mishnayot qu'on lit le soir de Pessah, ouais, le man tiskor et yom tzetecha meret Mitzrayim kol yemechayecha. C'est quoi kol yemechayecha? Alors Benzema il dit yemechayecha ayamim, kol yemechayecha alelot. Et Chachamim ils disent non, kol yemechayecha leavi limot haMashiach. Alors Benzema il a demandé vechi maskirim. Il était à Mitzrayim, l'imot à Mashiach.
Juste, tu voulais dire que Eret Tzafona, ça veut dire cette fois-ci, c'est plus d'Égypte, mais ça va être de l'Est, ou plutôt de l'Europe, etc.
Oui, c'était les terres du Nord. Ouais. Et des autres pays, mais principalement le Nord, qu'il y aurait. Voilà. Alors, il dit, donc Benzoma, il a une question, il dit, mais je ne comprends pas, comment est-ce que vous pouvez dire que Kole Mechaïcha, c'est l'imot à Mashiach, mais on a un pasouk Mefourach qui dit que l'Ati de l'avant, on ne parlera plus de Yitzhak Mitzrayim, comme on a vu dans le pasouk. Alors ils ont répondu non. Quand ce passage qui ne vient pas dire que Yitzhak Mitzrayim elle va être arrachée comme si elle n'a jamais eu lieu, mais que jusqu'à là, tous les matins et tous les soirs, on parle d'Yitzhak Mitzrayim, il y en a qui disent que, ouais. Voilà, c'est-à-dire que Yitzhak Mitzrayim, c'est mitzvah tassé minatora, peut-être plus que Kriyat Shema. C'est pas évident que Kriyat Shema c'est minatora, il y en a qui disent que Matvei Yatsiv, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Yitzhak Mitzrayim c'est minatora. Et l'Ati de Lavo, Zélo, ce ne sera pas le Icar, ce ne sera pas l'essentiel, mais ça sera quelque chose de... Quand on parlera de la Géoula, on parlera de la Géoula qui se sera passée. Et on dira aussi, au passage, on parlera d'Yitzhak Mitzrayim. C'est-à-dire qu'Yitzhak Mitzrayim, c'est un Tafel. Ouais, comme dans les Brachot, il y a Icar et Tafel. Ouais. Mais c'est intéressant, ce n'est pas juste que c'est quelque chose qui existe, qui est... On s'en rappelle aussi. Icar et Tafel, ce n'est pas juste deux choses, qu'il y en a une qui est prépondérante et l'autre qui prend moins de place. Tafel, c'est quelque chose qui vient se greffer au Icar. Il n'y a pas de concept de Icar et Tafel pour quelque chose de petit et quelque chose de grand. Ouais. Icar et Tafel, c'est qu'il y a quelque chose qui est central, il y a quelque chose qui est en périphérie, mais qui vient accompagner, en fait. Donc, Kayot Sebo, on a trouvé le même concept. Lo Icaré Shemcha Yaakov, Kim Israël Yeshemecha. On t'appelle, ton nom ne sera plus Yaakov, mais Israël. Ça ne veut pas dire que le nom d'Yaakov est disparu. Mais le nom de Yaakov, Israël, c'est le nom principal. Et Yaakov, c'est Tafel. C'est un nom qui est Tafel. C'est un nom qui est en filigrane, en fait. Et ainsi, on dit, il y en ramène un autre pasouk, « Altiskeru rishonot vekadmoniot altidbonenu » Ne vous souvenez pas des choses premières et ce qui précédait, n'inspectez pas. Ouais, « Idbonenu » c'est une inspection. « Altiskeru rishonot zo shibud malchuyot » Ne vous rappelez pas des choses premières, c'est Shibud Malchuyot, c'est la servitude, l'assujettissement aux nations. Vekadmoniot altit bonenu, c'est Yitzhak Mitzrayim. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a Rishonot et Kadmoniot. Mais une fois qu'il y aura la Geoula, alors on parlera ni des Rishonot, ni des Kadmoniot. Kadmoniot, c'est plus que Rishonot. C'est plus ancien.
C'est lesquels?
C'est-à-dire que les plus anciens, c'est Kadmoniot, c'est Yitzhak Mitzrayim. Shibud, donc on ne souvenait pas d'abord des Rishonot et Shibud Malchuyot, quand il y aura la Geoula. Et même.
La Geoula future.
Voilà, c'est-à-dire, ne vous rappelez pas de le Shibud, rappelez-vous de la Geoula.
Ah, il le dit,
ouais. Et comme il y a marqué, Ineni osé Chadasha atatitzmach.
Chadashot.
C'est moi qui ai marqué Chadasha, mais c'est possible. Khadashot. Ouais, c'est possible que ça, c'est les vieilles éditions. Ata titzmach, je fais quelque chose de nouveau qui poussera maintenant. Là-dessus, il y a marqué.
Ah, ok. Alors, je trompe ce nom.
Qu'est-ce qui vient donc là-dessus, il y a enseigné. C'est quoi Khadasha Atat Itzmar? C'est Milchemet Gog ou Magog. C'est même Gimel Yudet. Machal Ema d'avoir domé. Un homme que d'abord il rencontre un loup, il est sauvé. Alors quand il va raconter ses hauts faits, j'ai eu une expérience tout à fait incroyable, c'est que j'ai échappé à un loup. Après, on rencontre un lion. Alors, l'histoire du loup, plus tellement excitant. Donc, il raconte l'histoire du lion. Et à la fin, il rencontre le serpent et il est sauvé. Alors, Shachach Maaseshneem, il a oublié ce qui s'est passé au début. Il raconte l'histoire du Nachash. Un Nachash est beaucoup plus dangereux qu'un loup. C'est beaucoup plus dangereux qu'un lion. Parce que le Nachash, il ne mange pas, il ne mord pas, il n'attaque pas. Le Nachash, il tue. C'est-à-dire que c'est presque sa seule fonction. Ainsi, Israël, les tsarotes, dernières tsarotes, elles font oublier les premières. Mais ce n'est pas que les premières n'ont pas eu lieu, mais qu'il y en a d'autres qui prennent le devant de la scène. On dit, c'est quoi cette discussion? Alors le Maharal, il se demande, c'est quoi cette discussion? Est-ce que on va oublier Yetziat Mitzrayim ou bien ça deviendra Tafel? C'est quoi l'enjeu de la discussion, en fait? Pourquoi c'est tellement important, Chachamim, de ne pas dire comme le pshat du Pasouk? Le pshat du Pasouk, c'est on ne parlera plus de Yetziat Mitzrayim, on parlera de la Géoula. Alors, et Chacham lui disent non, c'est pas ça le pshat, mais non, c'est Shibud Malchuyot, c'est Ikar, et Tzad Mitzrayim, c'est Tafel. Pourquoi? Alors il dit en fait, l'idée elle est comme ça. C'est que toute cause, dans la vie, il y a des causes et des conséquences. Et pour qu'il y ait une conséquence, il faut qu'il y ait la cause de cette chose-là qui soit en même temps. Si la cause de quelque chose, elle cesse d'être là, la conséquence aussi, elle cesse d'être là. Ouais. Et donc, si on voit qu'il y a une cause qui a disparu, mais la conséquence, elle reste là, c'est qu'en fait, la cause n'en était pas une. En tout cas, ce n'est pas une vraie cause. Ce n'est pas la cause de ce qu'on a devant nous. Il dit le dogma. C'est quoi le machal? Si je vois qu'un constructeur ou un constructeur, un maçon, il construit une maison, et après, il meurt, et la maison, elle est là. Ou tu vois le père qui est la cause de la naissance du fils, et le père, il décède, et le fils, il est là. Alors, forcément, tu dis que le fils, tu peux pas dire que le fils, il existe maintenant à cause de son père. La raison que le fils, il vit maintenant ou il survit, c'est pas à cause du père, parce que le père, il est pas là. Donc, comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas là, qui n'existe plus, il peut être la cause de ce qui existe? Comment est-ce que quelqu'un on a des palais qui ont des centaines d'années, comment est-ce qu'on peut dire que la cause de... Pourquoi ce palais, il est debout? Pourquoi ce palais, il existe? Parce que Louis XIV, il a construit il y a 600 ans. Il dit que ça ne marche pas. Tu ne peux pas dire comme ça.
Le Messovev, pour lui, c'est la résultante.
Oui. Okay. Alors, tu ne peux pas dire comme ça. Parce que si c'est la cause, il doit être là. Puisqu'il est nécessaire. Une cause, elle est nécessaire. C'est-à-dire que pour que quelque chose existe, il y a quelque chose qui était nécessaire à ce que ça existe. Pour que quelque chose existe, il fallait qu'il y ait quelque chose avant. Et si la cause n'est plus là, à la conséquence, elle disparaît aussi. Et donc, pourquoi est-ce que la maison, elle est là? Parce qu'en fait, le constructeur, ce n'est pas la cause de l'existence de cette maison. Pourquoi? Alors, en fait, on a des briques. Pourquoi ces briques, elles sont ensemble? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, elles ont été rassemblées? Ça, c'est le constructeur qui est responsable du rassemblement des briques. Mais maintenant, pourquoi est-ce que les briques, elles restent au même endroit? Parce que la nature des briques, Dieu, elle a créé les briques, que les briques, elles ne s'en vont pas. Que quand elles sont posées sur un sol... Alors elles vont rester stables. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'une maison elle tient? Parce que c'est la nature du. Parce qu'il y a le sol qui est en dessous. Pourquoi est-ce qu'une chaise en bois elle disparaît pas dès que je la lâche? Parce qu'en fait, le bois, sa propriété, c'est de rester tel qu'il est. Parce que, ouais. Pourquoi est-ce que la chaise elle reste telle qu'elle? Parce que le bois il est comme ça. Donc il y a la transformation et il y a l'état d'une chose.
Alors attends, mais là il dit ce qui n'est pas là si bas, mais. Toi, tu dis ce qui est la siba, par exemple, dans une maison, c'est uniquement le matériau.
Le matériau, le sol, c'est-à-dire que la cause de l'existence, il y a pourquoi est-ce que ça devient et pourquoi ça existe. Bien sûr, pourquoi est-ce qu'un enfant est né? Parce qu'il y avait le père. Mais pourquoi est-ce que le fils y survit? Parce que la cause, parce que Hachem, il lui donne la vie. Parce que comme ça, c'est ainsi qu'il a fait la nature. Donc il y a le devenir, il y a quelqu'un qui va prendre des objets et qui va être la cause de la transformation. Mais une fois qu'on a transformé, on a un nouvel objet, pourquoi est-ce que cet objet il reste tel qu'il est? Le créateur n'est pas celui qui maintient l'objet, il est juste celui qui l'a transformé. Ouais. Et donc, voilà. Mais le, donc, s'il n'y avait pas eu la cause dans l'histoire de la, du bois, ben en fait, les bois, ils n'auraient pas été collés les uns aux autres. Mais maintenant, pourquoi est-ce que ça se maintient comme ça? Parce que la terre, elle tient la maison. Ouais. Et donc, ce qui est la cause du maintien de la maison, c'est le sol. Le sol, il maintient la maison. Si le sol, il s'effondre, la maison, elle va s'effondrer.
Mais c'était à un moment, la cause, c'était le constructeur.
Parce qu'en fait, il faut distinguer, comme on a dit, la cause de la transformation, c'est le constructeur. La cause de l'existence, c'est pas le constructeur. Pourquoi est-ce que 500 ans après, on va au château de Versailles? C'est pas parce qu'il y avait, c'est pas Louis XIV. Louis XIV, il a fait construire. Maintenant, pourquoi est-ce que 400 ans après, alors qu'il est même plus en état d'entretenir, ça continue à exister? Il y a plusieurs causes. Le fait que le sol, il est stable, et que quand un matériau, il est solide, bah, le matériau, il reste à sa place. Une des causes, c'est aussi parce que, voilà, pourquoi ça s'effondre pas? Parce qu'il y a un entretien. Mais donc, en fait, le meilleur exemple, c'est la lumière. La cause de l'éclairage, c'est l'électricité. Si l'électricité cesse de venir, il n'y a plus de cause, la lumière, elle s'éteint quasi instantanément. Donc, il dit, en fait, une siba, la siba, en fait, elle intervient constamment. Pourquoi est-ce que la maison ne s'effondre pas maintenant? Il y a des causes qui sont actives maintenant. Il y a des lois de la nature qui sont actives, qui sont en action maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, un ingénieur, on peut calculer, on peut faire des équations pour déterminer quelles forces sont en œuvre sur cet édifice maintenant qu'ils maintiennent en place. Et ça, c'est la cause. Donc, dit par conséquent, puisque le père, quand il n'est pas là, le fils, il continue, le père n'est pas la cause de la vie du fils, le père est la cause de la naissance du fils. Ouais. Etc. La transformation, c'est le fils. Mais la vie du fils, elle n'est pas dépendante du père, parce que comment le père, il peut donner quelque chose qu'il n'a pas? Comment est-ce que quelqu'un, il peut être cause de quelque chose qui est plus grand que lui? Ouais. Moi, je ne peux pas faire plus que ce dont je suis capable. Donc, il dit, forcément, si les choses, elles existent, si une personne, elle a envie, la cause, ce n'est pas le père. La cause, c'est Dieu qui le maintient en vie. La cause de toute chose, c'est Dieu, en fin de compte. L'homme, ce qu'il a un pouvoir, il a un pouvoir de transformer. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je peux transformer. J'avais des choses, j'avais un objet A, et je le transforme en objet B. Ça, à l'homme, il a été donné le pouvoir de transformer, mais pas de maintenir. Ça, pourquoi est-ce que les choses, elles existent? Parce que comme on dit, Mechadesh betuvo becholiom tamid ma se bereshit. Dieu en continue constamment. C'est la centrale électrique qui tourne, qui est loue, qui vient constamment et qui donne de l'énergie et de la vie au monde. Donc Rachamim, ils disent, en fait, comme ça. Il dit, alors le Maral, il dit, il va se servir de ce concept qu'il a posé, que pour que quelque chose existe, il faut que, en même temps, la cause de cette chose, elle soit présente. Il dit, il n'y a pas de Yemot à Mashiach sans Yetziat Mitzrayim. Il n'y a pas de... On ne serait jamais arrivé, la cause réelle de Yemot à Mashiach, c'est Yetziat Mitzrayim. On va expliquer pourquoi. Mais puisque la cause de Yemot à Mashiach, c'est Yetziat Mitzrayim, donc forcément, elle est présente en même temps. Forcément, ce qu'on appelle Yetziat Mitzrayim, c'est quelque chose... Donc déjà, il pose deux choses. Yetziat Mitzrayim, c'est quelque chose de perpétuel. Ce n'est pas un événement dans l'histoire. C'est une idée avec laquelle on est familiarisé un petit peu. Mais il y a Yetziat Mitzrayim, c'est quelque chose, tous les jours, on vit Yetziat Mitzrayim. Le fait qu'on n'est pas en Égypte, c'est une Yetziat Mitzrayim. C'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça qu'on voilà, rappelle tous les jours, pour dire, chaque jour qu'on n'est pas en Égypte, c'est une Yetziat Mitzrayim qui doit se vivre en permanence et qui est cause de la Géoula. Grâce à la Yetziat Mitzrayim, on a la Géoula finale. Et donc, on ne peut pas occulter la Yetziat Mitzrayim, parce que si on occulte, ça veut dire que ça n'a plus de place. Donc en fait, on se retrouve avec une cause qui n'existe plus au moment de la conséquence. Et donc on a un problème d'ordre logique. Ouais. Ils disent, parce qu'en fait, le point de départ de la Madriga, c'est qu'en fait, le tremplin pour la Géoula, c'est ce qu'on a, la transformation, c'est ce qu'on est devenu au moment des Tzad Mitzrayim. Quand on est sorti d'Égypte, on a acquis une Madriga, on a acquis un certain niveau et une certaine élévation, qu'on est devenu le peuple juif. On est le peuple juif parce qu'on est sorti d'Égypte. Plus que ça, on est le peuple juif parce qu'on est le peuple qui sort d'Égypte. Chaque année, on repasse le même rituel, c'est pas le même. On repasse toute la pièce de théâtre parce que sinon on s'oublie ou sinon on se perd. Si on n'est pas sortant d'Égypte, ouais, kol yemecha, les man tiskor kol yemecha, l'ancêtre des juifs. Ça, c'est l'idée qu'il dit ici. Et c'est ça qui nous fait de nous des juifs. Et parce qu'on est juif, alors on va pouvoir acquérir une deuxième madriga qui est la madriga de la Géoula. Mais c'est en tant que juif, c'est pas en tant que... C'est pas qu'on est juif et d'un coup on se retrouve à la Géoula. Non, c'est en... parce qu'on est juif, alors on va progresser jusqu'à la Géoula. Et donc, puisque c'est comme ça, on peut pas, Chachamim me disent, on peut pas occulter la Siba. Pourquoi est-ce qu'on arrive à la Géoula? Parce qu'on est juif. Ça veut dire quoi qu'on est juif? Ça veut dire qu'on est sorti d'Égypte. Donc, on ne peut pas parler de la Géoula sans parler aussi de ce qui, a, de ce qui permet la Géoula. Et c'est quoi? C'est la Yetziat Mitzrayim. Et si on occulte la Yetziat Mitzrayim, ça veut dire qu'en fait, la Géoula, c'est comme si d'un coup, il y avait un nouveau peuple. Que tout le passé n'existait pas. Et qu'en fait, d'un coup, on se projetait dans un futur sans avoir de passé. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est... Il y a beaucoup de gens, ils aimeraient pouvoir se réinventer du jour au lendemain. Hein, moi, c'est que tout le passé, il n'existe pas. Mon meilleur moi, je m'excuse, mais il y a Sartre, il a écrit un livre qui s'appelle Les mots. Ouais. Et là-dedans, il dit, mon meilleur livre, c'est le livre que je vais écrire. Il dit, je suis fidèle à personne et surtout à moi-même. Ouais. Celui que j'ai été demain, mais déjà... Le livre que j'ai écrit hier, je suis prêt à cracher dessus. Parce que je suis aujourd'hui, je suis un meilleur moi. Le moi... Quoi?
C'est normal, sorti de huis clos, il pouvait faire que ça.
Non, d'accord, mais juste là, c'est ici, c'est, en fait, c'est... La Géoula, ça se passe pas comme ça. C'est pas que du jour au lendemain, les gens qui étaient les juifs seront libérés. C'est pas... Les gens qui étaient les juifs, ils ont souffert beaucoup, donc Hachem, il va les prendre, ils vont faire un nouveau peuple. Non, non, c'est pas ça. C'est que les juifs, ces juifs-là, ils vont évoluer vers la Géoula. Mais on ne peut pas avoir de Géoula sans avoir les Juifs d'avant. Il y a une transition, mais il n'y a pas de rupture. Ouais. Donc, c'est pour ça que Chachamim, ils répondent. Donc, ah, il dit, mais il y a un passage qui dit qu'on n'en parlera plus. Et donc, Bémet, il faut dire que la Géoula, ce sera quelque chose de nouveau. C'est un nouveau peuple. Ouais. Un nouveau peuple. Comme il y a, voilà, c'est qu'il y aura un nouveau peuple. Alors, Chachamim, ils disent, non, c'est pas que... On va l'oublier, mais que bien sûr que maintenant, qui on est les Juifs d'après la Géoula. Et juste après la Géoula, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste que les Juifs d'avant la Géoula. Et pourquoi est-ce qu'on sera comme ça? Parce qu'on aura vécu la Géoula. Mais ça reste qu'il y a quelque chose qui subsistera, qui est le noyau, le cœur, qui est la Yetziat Mitzrayim. Et c'est-à-dire qu'en nous, on sera Juifs de par deux aspects. On sera Juifs de par la Yetziat Mitzrayim comme aujourd'hui. Et on sera encore plus juif de par la Géoula. Mais c'est en cercle excentrique, je dirais. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, on ne peut pas... Sauf que, donc, bien sûr que l'essentiel, ça sera la Yeshivut Malchuyot, la Géoula. Mais on ne pourra pas faire abstraction complètement de la Yetziat Mitzrayim. Et donc, c'est pour ça que c'est Tafel et Icar. C'est-à-dire Tafel et Icar, c'est quelque chose d'essentiel. Mais il y a quelque chose sans lequel... Tafel et Icar, la Gemara, elle dit, c'est donne un exemple. C'est des choses qui sont tellement sucrées qu'on ne peut pas les manger sans un peu de pain. Parce que c'est immangeable sinon. C'est-à-dire que ça ne peut pas exister sans. Donc ici aussi, bien sûr que le Icar, ce sera la Géoula. Mais la Géoula ne peut pas s'entendre sans la Yetziat Mitzrayim. Mais donc c'est Icar et Tafel. Icar et Tafel. Comme on avait dit avant, ce n'est pas juste. Il y a quelque chose d'essentiel et bon, quelque chose que c'est important, mais voilà, on s'en rappelle quand on s'en rappelle. Non, non. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire Géoula sans dire Yetziat Mitzrayim. Et c'est pour ça qu'on ramène, dit-il, une raïa du nom de Yaakov et d'Israël. Parce que Yaakov, il n'y a pas d'Israël sans Yaakov. Il n'y a pas de... Pourquoi? Parce qu'il dit comme ça, « Kishem Yaakov nikra milashon chaye Yaakov maktin atzmok moekev. » Yaakov, il se voyait très bas. Il n'y a rien de plus bas que le talon. Et Hachem, il est magbiya auto, jusqu'à ce qu'il s'appelle Israël, que Sarita im Elokim ve Imanashim. Ouais, parce que Kol Shem Amashpilatzmo Akadosh Baruch Hu Magbia Oto. Tout celui qui s'abaisse, Dieu il l'élève. Et c'est pour ça que les deux ils existent en même temps. Israël ils sont très grands. Pourquoi? Parce qu'ils se rabaissent. Ils sont très grands parce qu'ils se rabaissent. Qu'est-ce qu'ils sont très grands? C'est quoi la cause de leur grandeur? Le fait qu'ils se rabaissent aux yeux d'eux-mêmes. Et donc.
T'es pas d'accord qu'on devrait prendre cette phrase et la mettre dans tous les bâtiments de Rachman?
C'est la Nava, c'est un grand sujet, on va dire. C'est un vaste sujet. La Nava, c'est un vaste sujet, je suis d'accord. On va dire que c'est pas gagné, forcément.
Ouais, C'est moins qu'on puisse dire,
Mais donc il dit, mais là, les Géoulottes, les deux Géoulottes, en fait, elles se rassemblent comme si c'était une Géoula, comme si c'était une seule Géoula. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que quand on regarde, on commence la Haggadah, Vishé Amda, ouais, Baruch Shomer Avtachato, qui l'a promis à Abraham, Vishé Amda, c'est la Avtacha qu'il a fait à Abraham. C'est elle qui nous a protégés maintenant dans la galoute. Mais l'Avtacha d'Abraham, elle concernait Mitzrayim. Non, parce qu'en fait, Mitzrayim, c'est juste la première pierre, c'est juste l'ouverture d'une très longue histoire. Moi, j'ai une théorie, mais je ne sais pas si elle est vraie, qu'en fait, on aurait dû rester 400 ans. On aurait dû rester 400 ans. Si on était resté 400 ans en Égypte, on aurait épuisé toute l'histoire en 400 ans. Mais en fait, on n'a pas tenu. Alors, il a fait quelque chose. Il a fait que les quarts de la galoute, les quarts de galoute Mitzrayim, les 400 ans, il les a déplacés. Mais on avait quand même quelque chose à payer, et ça, on le paye avec les quatre malchouyot.
C'est pas une théorie, c'est écrit.
Oui, j'imagine, mais je l'ai pas vu, donc...
C'est écrit dans le Zohar. Il y aurait la libération définitive.
Oui, mais en fait, c'est, les,
c'est écrit dans le Zohar, même qu'on est machine, toute la génération, bah,
voilà.
Ce qu'on n'a pas payé en Égypte.
Voilà, bon, d'accord, bah, c'est bien. Voilà, c'est qu'en fait, ces 170 ans-là, c'est ça qu'on paye, en fait. Mais c'est une hachlama de la Géoulat Mitzrayim. C'est une hachlama, et c'est la on arrive, on complète la Yetziat Mitzrayim, on complète la Galoute, donc on aura une Géoula complète, mais qui n'est pas quelque chose de nouveau, d'indépendant. Non, non, c'est la suite de l'histoire d'Égypte. D'accord. Alors, donc ça, c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, il veut commencer en disant que la Géoula, elle ne survient pas de nulle part. La Géoula, elle ne survient pas de nulle part. La Géoula, elle a un Shoresh. Ouais. Et c'est quoi le Shoresh de la Géoula? C'est qu'en fait, l'histoire juive, elle commence. Il n'y a pas d'histoire juive avant Yetziat Mitzrayim. Il y a des avots, il y a des pratim, il y a des individus, même s'ils sont 70, mais il n'y a pas un peuple. Le peuple, il est né au moment de la sortie d'Égypte. Et cette histoire...
Entre parenthèses, on a toujours un petit souci parce que Ayomaze Nietem Leham,
c'est après
la Torah.
Oui, mais en fait, non. Oui et non.
Ouais, oui, je sais, mais il y a toujours cette dualité.
Oui, il y a un devenir, parce que le peuple...
C'est une parenthèse.
Oui.
On dit toujours la naissance et la sortie.
Ouais, Véréotard, 1927.
J'arrive pas à
oui.
Me positionner par rapport à ça.
Mais c'est clair que c'est en tout cas, les Yetziat Mitzrayim, c'est ça le point de départ du peuple en tant que peuple. C'est-à-dire qu'on est passé d'individu à une collectivité. Ça se passe avec les Yetziat Mitzrayim. Après, il y a un devenir. D'ailleurs, la Harvout, elle arrive qu'à la fin, dans la Tamid Tzavim.
C'est Chamishim, Shaare.
Voilà. Mais il y a une progression, mais le fait qu'on est passé d'un ensemble d'individus à un collectif, ça c'est Yetziat Mitzrayim. Et cette histoire, elle continue, elle amène jusqu'à la Géoula finale, mais c'est capable. Donc il y a une progression, il y a une logique, il y a une suite.
Ouais. Pourquoi est-ce qu'il a peur, dans cet Akdama, d'une conception qui dirait le Yesh Me'ayin, il est partout, et donc il y a une brisure, une fracture, et puis un Big Bang
C'est possible qu'il y ait un aspect un peu polémique, où en fait il vient rompre avec le christianisme, où le christianisme c'est un nouveau peuple, et une nouvelle...
C'est à ça que je pensais, ouais.
Voilà, c'est possible que de manière subliminale, il dise tiens un petit peu ça, que la Géoula elle vient pas de nulle part. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive pour sauver l'humanité. La Géoula elle vient de l'intérieur du peuple juif qui se réalise en fait. La Géoula ne vient pas de l'extérieur. Il n'y a pas quelqu'un, un Mashiach qui arrive et qui dit bah maintenant le monde il est sauvé. Non, non, c'est le il y a un Mashiach, un Mouvan, il y a un sauveteur, mais il vient du peuple juif et il arrive parce qu'il y a un peuple qui est arrivé à la fin de son développement. Et sans ça, il n'y a pas de Géoula.
Parce que tu as remarqué que ici, quand il parle de l'homme, il a dit à un moment. Mais d'avoir Zayef cherché iten d'avoir ma shelo nimtzabo, aval sibat kiyumu misibacheret. Ou Hachem Idvar.
Oui.
Pourquoi il a besoin de dire ça pour le Père? Parce que si tu appliques ça à l'univers, t'as un problème. Parce que Dieu est. Alors il est obligé de dire que la Siba, Sakadosh Baruch Hu, si la Siba, Sakadosh Baruch Hu, t'as gagné que même s'il y a un Yesh Me'ayin, il y avait quand même une Siba, c'était Sakadosh Baruch Hu, et l'univers a pu apparaître.
Comme
donc t'as catapulté le Big Bang à l'extérieur.
Bon. Alors, il dit comme ça. Il va rajouter encore quelque chose. Il dit, quand il a fait un tribo qui s'appelait Gvorat Hashem, et là-bas, il a expliqué pourquoi il a appelé son Sefer Gvorat Hashem. C'est une agdama très compliquée, mais il dit, en fait, il y a des psukim. Il y a un pasuk, Lecha Hashem Agdoula, va Gvora, va Tiferet, va Netzar, va Od, Kichol va Hashem Mouvaret. Et donc, il y a une gemara dans Shabbat, il me semble, peut-être j'ai une bêtise, et qui dit, chaque chose à quoi ça correspond. Et Lecha Hashem Agvora, c'est Yetziat Mitzrayim. Et le Netzar, c'est quoi? C'est, on va voir que Netzar, c'est quoi? Il a ramené une Gemara que Netzar, c'est le Nitzachon contre la Malchut Aresha. Va Netzar ou ma palatash à l'Uma Aresha. Il y a la Uma Aresha, c'est un seul, c'est Edom. C'est la 4, ouais. Chassoz, ouais. Comme Nikmat Dama Vadecha, mais Uma Aresha. Je ne sais pas si les Sfaradim font ça, mais nous, par exemple, les Asara Rougé Malchut à Yom Kippur. Ouais, vous faites
non.
Ah non, on fait Asara Rougé Malchut même à Yom Kippur. Parce que voilà, parce qu'il y a la Uma Aresha, c'est notre. Il n'y a aucune autre Uma qui Uma Aresha, si ce n'est Edom. Edom, c'est le vrai ennemi. Les autres, ils ont des problèmes. Ouais, on ne les aime pas du tout. Mais on ne les appelle pas Uma Aresha. Edom, c'est Uma Aresha. Et donc, le Nitzachon, c'est.
Tu es entré sur la marche enquête qu'il y a sur le Rambam. Qu'est-ce que c'est Enlecha Uma Meuchro, Eret Mise, il dit. Il y en a, les Ashkenazim vont dire c'est Edom, les Sfaradim vont dire c'est Ishmael.
Donc c'est une machloket dans la Gemara, il y a deux choses. Uma Aresha, c'est Edom. Uma Aresha. Uma
Mechoueret. Ce qu'ils ont écrit oui. Sur le Rambam quand ils disent Uma Mechoueret.
Oui, oui. Mais à part ça, il y a deux choses. Il y a deux choses. Uma Mechoueret, mais Uma Aresha, Mechoueret peut-être, mais Resha, ça c'est Edom. Et donc, et la Gemara a dit ça c'est le Nitzachon, la victoire contre Rome. Il dit pourquoi donc il a appelé ce Sefer Netzach Israël parce que en fait Netzach c'est la victoire mais c'est aussi l'éternité. C'est deux choses qui vont avec. Il n'y a pas d'éternité sans victoire en fait. Pour être éternel, il faut vaincre. Il faut vaincre. Ouais. Et parce que donc Akadosh Baruch Hu il donne au peuple juif l'éternité et ils ne disparaissent pas, ils ne sont pas annihilés chas v'shalom dans leur galoute qui est dure, extrêmement dure. Et à part ça, donc il y a Netzach, il y a un double sens. Premier sens, c'est Nitzriut, c'est l'éternité. Et le deuxième, c'est la victoire, ouais. Que chez Menatzach Malchut Arvit, Yeshla Memshala. C'est le peuple qui a, il y a aucun peuple qui gouverne autant que Rome. Rome, c'est les spécialistes de la gouvernance, c'est l'administration. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont les autres, c'était, regarde, on va envoyer des armées, on va tout casser, et après, si vous voulez pas avoir de nouveau la guerre, alors vous ferez mieux de nous donner des impôts, parce que sinon, on enverra des gens pour vaincre. Rome, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils arrivaient quelque part, ils mettaient en place une administration. Des routes, ils mettaient des précepteurs des impôts, ils mettaient un préfet, un consul, etc., etc. Eux, leur but, c'est de dominer. Les autres, c'est d'être en contrôle. C'est vraiment, c'est la même chala. Et donc Hachem, quand il gagne contre eux, c'est vraiment, il y a toute une théorie de la gouvernance qui est émise par Edom. Il y a une théorie de la gouvernance. Il y a beaucoup de dimionnantes entre Sdom et Edom. Sdom aussi, c'est une ville qui est très organisée. C'est une belle ville, il n'y a pas de pauvres, il y a un tribunal, mais un tribunal, on veut que tout le monde soit pareil. On veut que tout le monde soit pareil. Quand il est trop grand, on coupe les pieds. Quand il est trop petit, on le tire. On ne veut pas de pauvres, surtout pas, ça fait pas beau. C'est qu'en fait, il y a toute une théorie de la gouvernance et du contrôle du monde. Et quand on contrôle le monde, on pense qu'on n'a plus besoin de Dieu. Et quand Dieu, il est vain, et quand Dieu, il est détruit, ça montre qu'en fait, il n'y a rien qui résiste à Dieu. C'est-à-dire, Churchill, il disait, il y a la démocratie, le pire système de gouvernance, à l'exception de tous les autres. Mais en fait, Dieu, il est plus puissant que tout ça. Donc, il y a un Nitzachon Mouchlat, il y a une victoire absolue. Il y a une victoire absolue.
Et il y a la victoire d'Israël aussi.
Quoi ?
C'est la victoire d'Israël.
Oui, mais c'est Hachem qui est Menatzeach. Et il y a quelque chose, donc c'est pour ça qu'il dit, donc ça on attend ça, Keniratzam et Merabiamenu. Et il y a une afrana qui est intéressante. C'est quoi ? C'est que Netzach, ça correspond à une personne. Netzach, dans les Ushpizin, c'est qui ? C'est Moshe. C'est Moshe, n'est-ce pas ? Et Moshe, il a fait les deux choses. Moshe, c'est celui qui se bat contre Amalek. Amalek, c'est Edom, le concentré de Edom, chimiquement pur, c'est Amalek. Et Moshe, c'est lui qui est là, qui donne V'riyadav shel Moshe osot milchama, oshavrot milchama. Ouais, les mains de Moshe elles font la guerre. Non, pas vraiment, mais quelque part oui. C'est-à-dire, il fait pas la guerre, mais il dirige tout vers Hachem. Et c'est grâce à ça qu'on a la victoire. La victoire, elle passe par Moshe. Et la survie dans la galoute, c'est comme dit le Rassak, en Israël Uma et la Betorata. C'est-à-dire que Moshe, c'est celui qui donne la Torah. Et la Torah, elle donne victoire. Elle donne la victoire, elle donne la survie. En fait, on vainc parce qu'on n'a pas le choix. Puisqu'on doit survivre, alors il faut vaincre. Le Nitzachon, il vient du fait qu'il y a quelque chose qui doit survivre et qui doit se perpétuer. Comme ça, je comprends. C'est pour ça que Moshe, quand il donne la Torah, il donne un système qui est au-dessus de tout. et donc qui est obligé de vaincre, qui est obligé de vaincre parce que il est tout, il doit se perpétuer. Comme ça, je comprends. Il faudrait affiner cette idée-là, mais Netzar, c'est pour ça qu'il y a deux sens, et ces deux sens, ils sont incarnés par Moshe Rabbeinu. La victoire et l'éternité sont incarnés par Moshe Rabbeinu. Voilà. Ça, c'est la Hagdama. Ça, c'est la Hagdama. Oui, vaguement, très vaguement. Donc ça, c'est la Hagdama. Ça veut dire que la Hagdama, elle est de comprendre. Mais il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est qu'en fait, le Netzar, il s'inscrit dans une continuité. Le Chachem Agdoula, Vagvura, Vatiferet, Vanetzar, Vahod. On ne peut pas arriver et dire, parler du Netzar sans avoir parlé de ce qui est avant. Il y a une continuité, ce qu'on appelle, non, les kabbalistes, ils parlent de Ishtal Shelut. Ouais, il y a les Sphirot, et il y a une espèce de flux qui descend. Et le Netzar, il n'existe pas en décorrélation de tout le reste. La victoire, elle n'existe pas en décorrélation de tout le reste. Elle appartient à un système qui commence beaucoup plus haut. De la même manière que Yetziat Mitzrayim, elle a un point de départ. Et pour nous, c'est le point de départ, mais ce n'est pas le point de départ de toute chose. Il y a des choses encore avant. Et quand on descend de Yetziat Mitzrayim, de la Gvura, voilà, il y a la Tiferet, etc. Et là, il y a le Netzar, mais ça ne s'inscrit pas en dehors de tout. La Géoula, elle arrive dans un système. Elle arrive dans un système. Et en dehors de ce système, ça ne veut rien dire. On ne peut pas parler de Netzar en dehors du système de la Hanaga d'Hachem. Et donc, ça rejoint ce qu'il avait dit avant, que de la même manière qu'il y a Gvurat Hachem, il y a Netzar Israël. Parce que ça fait partie du même système. Hachem, quand il manigue le monde avec... Il a un système pour diriger le monde, et qu'il y a différents aspects. Et qu'il y a un aspect qui s'est incarné, qu'on l'a vu absolument à Yetziat Mitzrayim, et il y a un autre aspect qu'on verra absolument à la Géoula. Mais ça n'existe pas en dehors de tout. Il y a quelque chose qui s'appelle Kotsetz Ben Etiot. C'est quoi Kotsetz Ben Etiot? On dit qu'Acher était Mekatsetz Ben Etiot. C'est de croire que quelque chose qu'Hachem y fait, c'est autre chose. Il y a différentes choses. Il y a différents aspects qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. De voir les actions de Dieu comme quelque chose d'éclaté, ça s'appelle Kotsetz Ben Etiot. C'est une forme de Kfira. Non, Hachem il est Echad ou Shmo Echad. Mais ces anagotes, elles prennent différentes formes. Mais il n'y a pas de rupture entre les choses. Non, on voit différents aspects, on perçoit différents aspects. Mais fondamentalement, il y a une ardoute. Et donc c'est ça qui dit qu'on n'a pas de Géoula, Atida, sans Géoula de Mitzrayim. Pourquoi ? Parce que la anaga d'Hachem, elle se révèle par facettes, mais c'est toujours les facettes, comme dans un diamant, le machal facile, mais c'est un diamant où il y a différentes facettes, il y a différents reflets. Mais en fin de compte, c'est le même diamant. On ne le perçoit juste pas de la même manière. Mais de penser que c'est éclaté l'un de l'autre et qu'on peut avoir l'un sans l'autre, c'est un non-sens. Donc, c'est pour ça aussi qu'il dit qu'il a écrit le Netzach Israël dans la continuité du Gvorat Hashem. Pourquoi ? Parce que ça fait partie d'un système. D'accord, ça c'est la Hagdama. Alors on va avancer, si déjà. Ouais, ça ne vous dérange pas, parce que c'est un long faire et qu'on avance.
Moi, j'ai vu, ça coûte 50...
Voilà, mais ce qui est bien, c'est que les prakim, ils sont un peu... Beaucoup de prakim qui sont... C'est des sujets, et c'est vrai qu'ils passent de sujet à l'autre, mais d'abord, il fait des sougiotes, en fait. Donc, on n'est pas obligé d'avoir tout suivi pour pouvoir avancer.
Juste avant qu'on commence, tu travailles des répétitions constantes du Maharal, parce que on dit qu'à chaque fois, il faut essayer de trouver le point...
Le chidouche.
Ouais, le chidouche, ouais, si tu veux, le chidouche, l'exception qui est mise en exergue dans la répétition, ou comment ça se passe? Non.
Je fais hasard, hein, je ne suis pas arrivé sans faire hasard, mais...
Non, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est ce que tu cherches, on va dire, bon, en chidouche. Ok.
Non, mais j'essaye... L'idée, elle est que...
Didactique.
Non, je suis pas la même, je suis quelqu'un d'autre que la première fois que je l'ai étudié. La première fois que je l'ai étudié, j'étais beaucoup plus jeune, et donc maintenant, quand je le lis, je vois ce que j'ai vu, et puis je vois d'autres choses, c'est normal.
Le thème central, c'est la Géoula finale, c'est...
Voilà, le thème central, c'est Netzach Israël, c'est le Nitzachon final. Mais en fait, pour parler du Nitzachon, il va falloir un Matrilin Bignut, Matril Bignut ou Msaïm Bishvar. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va expliquer dans le premier Pérec, c'est qu'en fait, la Géoula, elle se place dans le contraste de la Galoute. Parce que la grandeur de la Géoula, c'est parce qu'elle nous a sorti de la Galoute et qu'elle contraste et qu'elle rompt avec la Galoute qui était avant, qui est une Galoute qui est terrible. Même si des fois on peut s'endormir un petit peu, mais on est souvent rappelé à la réalité. Il dit, un grand yesod, c'est que, en fait, à l'époque, c'était la philosophie aristotélienne qui était très forte, c'est qu'en fait, les inverses relèvent, ce qu'on appelle le revers de la médaille, en fait, les inverses, ils relèvent de la même chose. C'est-à-dire qu'en fait,
on est dans un monde binaire dans lequel il y aurait le blanc et le noir. Mais en fait, c'est vrai, parce que le blanc, c'est la réflexion absolue de toute la lumière. Et le noir, c'est le fait qu'il n'y a aucune lumière qui réfléchit, etc., etc. Mais donc, en fait, quand on gère des absolus, en fait, si le noir, c'est l'absorption de toute lumière, alors le blanc, qui est l'inverse, c'est d'imaginer, de conceptualiser la réflexion de toutes les lumières. Si le noir, c'est... Donc, je peux conceptualiser... Après, je ne sais pas exactement de quoi ça aura l'air, je ne le verrai pas. Mais d'un point de vue, encore une fois, d'un point de vue mathématique, je peux conceptualiser le noir comme je peux conceptualiser, je peux faire un schéma où je dis, voilà, il y a une onde qui arrive, il n'y a rien de réfléchi, et il y a une onde qui arrive où tout est réfléchi. Donc, ça permet de conceptualiser l'inverse. À l'époque, c'est beaucoup plus fort. Aristote, il disait, voilà, c'est la fameuse phrase, connaître une chose, c'est connaître son inverse. Aujourd'hui, c'est un peu moins évident, on va dire, parce qu'on sait que en mathématiques, il y avait la logique de premier ordre et la logique de second ordre. Ça veut dire qu'il y a une logique qui est binaire, c'est oui ou non, et puis il y a l'entre-deux. Dans la Gemara, c'est ce qu'on appelle Miklal Hen Yatashome Alav. Quelqu'un il doit faire un Tana, il doit dire le oui et le non. Parce qu'en fait, même si j'ai dit oui, mais je n'ai pas forcément dit l'inverse. Mais à l'époque, en tout cas à l'époque, jusqu'à récemment, c'était des choses qui étaient très... La logique était fortement binaire. Et donc c'était très fort, mais ça reste vrai, c'est juste plus nuancé. Donc le concept de Géoula, il ne s'entend pas sans le concept de Galout. C'est-à-dire, il y a le neutre, il n'y a ni Galout ni Géoula. Un peuple qui vit sans avoir été jamais assujetti, on ne va pas parler de Géoula. Il n'y a pas de Géoula, il vit. Il vit, c'est une vie neutre. Il ne se passe rien. Mais pour parler de Géoula, il faut comprendre à l'inverse qu'il y a un binôme qui est Galout et Géoula, sans lequel l'un ne peut pas exister sans l'autre, en fait. Parce que parler de Géoula s'il n'y a pas eu de Galout, ça ne veut rien dire. La question de ça, alors maintenant la question est dans l'autre sens. Est-ce qu'on pourrait parler de Galout sans parler de Géoula? Parce qu'encore une fois, nous on est dans une nouvelle logique. Mais est-ce qu'on peut parler de... On a Galout. On comprend qu'il ne peut pas avoir de Géoula s'il n'y a pas eu de Galout. Mais on pourrait imaginer en fait une Galout éternelle. Mais en fait, il va prouver que ce n'est pas possible. Ouais. Il va prouver que ce n'est pas possible.
Ouais, c'est une erreur ou tu l'as dit intentionnellement, Miklal, Hen, I, Atachome.
Oui, I, Atachome, Alav. C'est ce que la Gemara elle dit, c'est qu'en fait, il faut les deux. Il faut dire les deux. Il faut le dire. Puisque quand j'ai dit non, j'entends pas l'autre éventualité. Si tu fais ça et ça, t'auras 100 euros. Et je me suis arrêté là, ça marche pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas dit. Et si tu le fais pas, t'auras pas 100 euros. Et
pourtant, souvent, on voit l'inverse utilisé. Miklal Hen, Atachome, Alav. Miklal Hen, Atachome, Alav. Même Rashi, il ramène plusieurs
fois. Oui et non, mais c'est-à-dire qu'en fait.
Ça veut dire que t'as les deux.
Oui, ça dépend des fois. Et des fois, la logique, elle est binaire. Et il y a des fois où on sait pas trop ce que tu veux dire. Si tu le fais, t'auras 100 euros. Si tu le fais pas, on verra. Ça veut pas dire que tu l'auras pas.
Non, j'entends.
Mais en tout cas, pour l'instant, l'idée, elle est que...
Vas-y, on va voir.
Vadaï que matril bignout umsayem bishvar. Parce que sans ça, je ne peux pas connaître la Géoula si je n'ai pas connu la Galout. La Géoula, elle prend son sens au travers de la Galout. Et donc, de la même manière, la Géoula finale, elle n'a pas de sens si on n'explique pas, si on ne comprend pas c'est quoi la Galout. Mais comme on a dit, mais qui a dit? Et donc, il faut comprendre la Galout. Pour comprendre ce que c'est la Galout, il faut comprendre aussi le pourquoi de la Galout. Parce que le pourquoi, comme on a dit, la cause, elle va motiver les conséquences. Si la cause, elle est placée, si on met, comme voilà, quand on tire dans un ballon, la manière qu'on va avoir de tirer un ballon, c'est elle qui va dicter la trajectoire. Donc, si on veut comprendre la Galout, il faut aussi comprendre le pourquoi de la Galout, et ça va justifier pourquoi est-ce que les choses, elles se passent telles qu'elles se passent. Pourquoi est-ce que la Galout, elle est telle qu'elle est? Et puisqu'on a une vraie compréhension de la Galout, alors on comprend que la Géoula, c'est le fait d'être libéré, d'échapper et de... Pas seulement que la Géoula, c'est pas juste que la Galout, elle s'arrête. C'est qu'il y a un renversement, en fait. Il y a un renversement, c'est que la Galout, elle s'inverse, elle se renverse en Géoula. D'ailleurs, le Shoresh, il est un petit peu le même.
Donc,
C'est Gal. C'est-à-dire, il y a une idée comme ça, qu'en fait, on est en Galout. En fait, les Juifs, ils avaient un travail à faire en Eretz Israël. Ils avaient un travail à faire en Eretz Israël et qu'ils auraient pu faire en Eretz Israël. Mais il faut dévoiler des choses dans le monde. Il y a des secrets qu'il faut dévoiler. Mais le problème, c'est que les gens, ils sont dans leur confort, ils ne vont pas chercher ils sont dans les évidences. On est toujours à l'aise avec les évidences, mais les choses qui sont fines, les choses qui sont nuancées, les choses qui, des fois, elles sont masquées. Ouais, les choses, elles sont masquées dans le monde. Il y a des concepts qui sont très simples, mais qu'il faut aller les chercher. C'est-à-dire, comme on est parti chercher des concepts de psychologie, on est quand même parti chercher chez l'égoïme. Parti en tout cas, on est parti de la psychanalyse, on est quand même parti à chercher. Ravolbe, il a pris des choses quand même du monde goy. Dans la tchouva, par exemple, tous les gens qui sont marzirim et tchouva, ils prennent souvent exemple sur les pasteurs des jeunes en Amérique, qui sont jeunes, qui sont bien habillés, qui ont une tchatch, etc. Il y a beaucoup de ça.
Tu confonds la méthode.
Non.
Et l'idée, l'idéologie, parce que l'idéologie.
Les deux.
Parce
qu'elle
est à l'origine, c'est Freud, mais lui, il s'est basé Tafka sur les Chachamim.
Mais ça, c'est.
Et toi, tu parles de l'aspect marketing de la chose.
Mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a. Dans toute chose, on peut trouver de la Kdoucha. C'est ça que je veux dire. Dans beaucoup de choses, apparemment, il n'y a pas de Kdoucha. Mais si on va regarder, on peut voir qu'en fait, il y a oui quelque chose. C'est-à-dire qu'en. Oui, on peut se servir de la jeunesse et de la. On peut amener des gens au bowling et d'être marzerotam et tchouva. Faire attention.
Mais qui aurait voulu dire que non? C'est quoi le Avamina qui avait
c'est qu'il y a, y a, ça ah, veut dire.
Pardon, tu viens du dogmatisme littéraire. Bah,
pas seulement, mais parce qu'en fait, l'idée, elle est qu'on va être conservateur et qu'on connaît ce qu'on connaît et que ce qu'on connaît pas, on connaît pas. Et ça, c'est le problème. On doit dévoiler des choses dans le monde. On doit être mégalé des choses. Et que si on le fait pas chez nous, alors on doit être gaulé, qu'aider les galottes. Et quand on a fini. Et quand c'est, et on passe, et donc en fait la Géoula elle arrive quand tous ces Gilouim ils se rassemblent et qu'en fait maintenant on voit la totalité du monde et on n'a plus besoin d'être en Galoute. Mais comme on a dit, c'est que la Galoute c'est pas juste quelque chose qui s'arrête, il y a une bascule.
Il n'empêche que ici, malgré tout,
ouais.
Quand tu lis le premier paragraphe, c'est Miklalen, ou plutôt Miklala va t'achouer.
Oui, je dis juste que c'est plus nuance. Moi je dis juste que. Le problème, il est que moi, quand j'étudie ça, et peut-être vous aussi, moi, je suis dans ma tête. Voilà, chacun, il a un peu ses schémas logiques. Mais dans ma tête, des fois, quand je vois le Maharal, je sens le besoin de le traduire un peu à mes sensibilités modernes, à ma logique qui n'est pas forcément la même. C'est pour ça que je préfaçais en disant que ce qu'il dit le Maharal, c'est un peu moins évident aujourd'hui, parce que la logique qu'on a aujourd'hui, elle est beaucoup moins binaire que celle de l'époque. Lui, il parle dans des termes aristotéliens, qui étaient encore absolument valides. En tout cas, sa logique est encore très forte à l'époque. Il n'est pas très longtemps après Galilée, même s'il il connaît Copernic. Il y a d'autres endroits où il parle de Copernic, de la révolution copernicienne, etc. Mais la logique, elle reste encore assez. On est avant Descartes, on est avant Kant, on est avant la logique. Donc j'ai juste que quand il dit des choses comme ça à l'emporte-pièce, ça reste valide, même si on n'a pas les mêmes références. Moi, c'est l'inverse.
Kenegadze, je vais te donner juste un exemple, mais ce n'est pas pour te contredire, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Moi, j'ai un univers scientifique, mais. Aujourd'hui, pour justement arriver à tout ce qui est électronique, informatique, etc.,
oui.
On a besoin de passer par l'électronique. Et ouais. Pour arriver à l'électronique, on a besoin de définir un monde binaire. De le définir. C'est-à-dire, oui. On fait l'inverse de ce que tu dis, on ramène tout au binaire.
Pour
avoir un semi-conducteur, on est obligé de faire un pourcentage va vers le zéro, un pourcentage qui va vers le 1.
Donc c'est l'inverse,
si tu veux.
Mais le problème, c'est que c'est une construction, et là, on parle en termes d'absolu. Donc c'est. Voilà, non, voilà.
Ok, on en reparlera.
Ah oui, excusez-moi. D'accord, donc puisque c'est comme ça, puisque la Géoula, c'est pas juste quelque chose qui arrive après la Galoute, mais c'est l'inverse de la Galoute, c'est-à-dire que la Galoute, elle bascule dans la Géoula, et qu'on ne comprend pas la Géoula sans comprendre la Galoute. Et on va voir en fait plus que ça, c'est qu'en fait, même la Galoute, elle ne se comprend pas sans parler de Géoula. La Galoute, c'est pas quelque chose. Il n'y a pas de Galoute sans Géoula. C'est inimaginable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment deux choses qui vont ensemble. D'ailleurs, c'est pour ça que si vous avez remarqué, on dit que c'est l'Atid Lavo, c'était Shibud Malchuyot Ikar, Viyitziat Mitzrayim. C'est-à-dire, la Géoula du Shibud Malchuyot, il faut pas. On parle du Shibud Malchuyot. Le fait qu'on soit sorti du Shibud Malchuyot, c'est ça l'essentiel. C'est pas le fait que maintenant on est après, on a le Beth Amikdash, le Mashiach. Non, c'est ce passage où on sort du Shibud Malchuyot, c'est ça qui nous fait, comme quand on est sorti d'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a l'Égypte et la sortie d'Égypte, c'est pas juste une rupture. c'est comme l'exemple du papillon, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une métamorphose, mais qui avait des racines déjà dans le ver. Voilà. Donc il faut expliquer la galoute. Et il dit plus que ça, parce qu'en fait la galoute, c'est une preuve claire et évidente de la Géoula. Il dit, quand on imagine la galoute, il faut comprendre la Géoula. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de doute que la galoute, c'est un changement et c'est un état non naturel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une contrainte. La nature, elle a un certain équilibre. Et la galoute, c'est comme si on applique de manière artificielle une tension. Mais comme quand on applique, on a quelque chose, un corps il est élastique, il veut revenir là où il est. Le seul moyen que quelque chose ne revienne pas à sa place, c'est qu'en fait, on l'ait cassé. C'est-à-dire que si on prend un bout de métal et qu'on le tord, soit on l'a tordu, on lui a donné une nouvelle forme, mais sinon, tant qu'on n'a pas cassé, en fait, on n'a pas atteint le point de rupture, en fait, on applique une tension externe, mais dès qu'on relâche, ça va reprendre le point d'avant. Pourquoi ? Parce que c'est ça sa forme. Et le seul moyen, c'est en fait, pour tordre du métal, il faut lui donner une nouvelle forme. On va prendre un bout de métal. Si on bouge un petit peu et qu'on applique une tension, on va dire modérée, bah, naturellement, c'est juste une tension et ça va reprendre. C'est juste qu'il y a des métals qui plient plus facilement que d'autres. Il y a des métals qui gardent une certaine résistance plus souvent. Mais du moment qu'on dit qu'il y a un état et que là, il y a une tension, il y a une force qui est appliquée là-dessus, c'est un état non naturel. On n'a pas d'équilibre en fait. Aujourd'hui, on dirait on a une situation qui n'est pas en équilibre.
Le CDR, c'est ça, non ?
Voilà. Ou Shinu, il va étirer Mina CDR.
Là, il y a un CDR actuellement dans là-dedans.
Non.
Non, c'est pas
non.
Ça.
Non. Pourquoi ? Parce qu'il dit comme. Alors, il dit comme ça. En fait, la situation dont on est, c'est une situation de tension. Il y a un déséquilibre. Pourquoi ? Parce qu'Hachem Yitbarach, il a arrangé chaque Kouma, chaque peuple, à son endroit qui lui est approprié. Chaque peuple, il a sa place. Et Israël, ils ont leur place. Et c'est ça, c'est Eret Israël. Et c'est ça leur place. Presque Mibriyat Haolam. Ouais. C'est marqué dans. C'est le premier Rachid. C'est le premier Rachid.
Donc, selon ton machin, ouais. La galoute, c'est une tension modérée, c'est ça ?
C'est une tension qui n'est pas suffisante pour créer un nouvel état. D'accord. C'est une tension. Il y a une tension qui continue à être appliquée, en fait.
Pourquoi il dit les gamrés ?
Alors, une seconde. Bah, galoute, c'est-à-dire que c'est absolument une tension. C'est pas que. Il y a des états qui sont des états, on va dire, d'équilibre instable, si je peux me permettre. Il dit. Non, là, il y a aucun équilibre, en fait. Il n'y a aucun équilibre, il y a un déséquilibre absolu. Il va falloir qu'on résolve la situation d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ? Et toute chose qui est en dehors de l'endroit où elle était, si elles ne sont pas à leur place, comme on a dit, elles ont tendance à vouloir revenir à leur place. C'est-à-dire, à l'époque, on l'aurait dit en des termes très aristotéliens, où les pierres, elles tombent parce qu'elles viennent de la terre, elles veulent revenir à la terre. Ça, on a un peu dépassé ça. Mais ça reste que c'est pour ça que je donne le machal du métal qui est soumis à une tension. Quelque chose qui est soumis à une tension, dès qu'on finit d'appliquer la tension, de deux choses une, soit ça s'est cassé, soit ça revient à sa place. Parce qu'il y a une tension. En fait, une pierre, quand on la déplace, ça c'était ici, là c'est là-bas, en quelque sorte, j'ai changé l'objet. Sortir un objet, c'est Béchabat, c'est une mélacha, parce que j'ai inventé un nouvel objet. L'objet chez moi, la maison, l'objet dans la rue, c'est deux objets. Parce qu'en fait, l'objet, il n'a pas d'attache. Et puisque l'objet, il n'a pas d'attache, donc le déplacer, c'est instantanément créer un nouvel objet. Mais toute chose qui a une attache, en fait, soit je le casse, soit j'applique une tension, mais dès que ça disparaît, il y a un équilibre. Aujourd'hui, on invente les gratte-ciels, on fait en sorte que le vent, il va les pousser, mais ils peuvent osciller et toujours, ils vont retrouver un équilibre au bout d'un moment. Et donc, forcément. Pourquoi ? Parce que si tu as quelque chose qui reste éternellement là où il est, même quand il n'y a plus de pression qui est appliquée, ça veut dire que c'est un nouvel état. Il y a un nouvel état. Alors, il y a quelque chose qui était comme ça et maintenant il est là, on l'a changé. Et donc, alors un objet, c'est pas très grave parce qu'un objet ici ou là-bas, ça reste. On a dit qu'il y a un peu une mélacha, mais fondamentalement, c'est pas grave. Mais un peuple qui change d'endroit, ça veut dire que le peuple qui a été créé, c'est un peuple qui n'existe plus. Un peuple en dehors de son endroit, si sa nouvelle nature, c'est d'avoir changé d'endroit, ça veut dire que le peuple, le premier peuple, il a disparu. Si on prend un peuple et qu'on le déracine de son endroit et qu'on l'installe ailleurs, ben en fait, c'est pas ce peuple-là a été déraciné, c'est un nouveau peuple. Et ça veut dire que quand Hachem a créé le premier peuple, il l'a créé pour rien, puisque maintenant il a changé. Il a créé un premier peuple, il a mis dans la nature, depuis les 7 jours de la création, il leur a donné un endroit, et après il éradique ce peuple, et il en met un nouveau. Et ça, c'est un peu... C'est pas normal, c'est pas normal. Il va donner un machal, ça ressemble à quoi? C'est comme si tu as une flamme que tu essayes de tirer vers le bas. Ouais, une flamme, elle tend vers le haut. La flamme, elle tend vers le haut. Là, ce qui est chaud, ça tend vers le haut. Et tu peux retenir tout ce que tu veux. Ce qui va se passer, c'est que la pression, elle va augmenter et qu'à un moment, ça va sauter et tout va partir vers le haut. Parce qu'il y a une pression, parce que le feu, les matières chaudes, elles ont tendance à se dilater, à vouloir monter. Et si on les empêche, bah, c'est juste que la pression, elle va augmenter. Et on sait tout ce qui se passe quand une cocotte minute, que la valve ne marche pas. Mais ça veut monter. Et donc, en fait, tant que tu retiens. Mais une fois que ça lâche. Il y a un exemple que j'avais entendu une fois, c'est qu'en fait, dans l'eau, dans les tuyaux, quand il fait très froid, en fait, ça veut refroidir. Mais quand ça, pour passer en dessous de zéro, donc en dehors, il fait moins 20, l'eau, elle veut passer en dessous de zéro. Mais le problème, c'est que si elle veut passer en dessous de zéro, elle se dilate et les tuyaux, ils l'empêchent. Donc la température de l'eau dans le tuyau, elle reste à zéro, tant que le métal y tient. Mais il y a un moment où la tension, elle est trop forte, et ce qui va se passer, c'est que l'eau, elle va passer instantanément de zéro à moins de 1 ou 2 degrés, à en dessous de zéro, elle va se transformer en glace quasi instantanément. Tant qu'il y a de la pression, ça reste liquide. Dès que la pression, elle se relâche, l'eau, elle se dilate et elle gèle instantanément. Parce que tu peux retenir, mais c'est quelque chose d'artificiel. Mais l'eau, elle a... Les processus qui vont faire que l'eau elle va se refroidir, ils sont là. Tu l'empêches artificiellement. Mais dès que la contrainte elle est plus là, la transformation elle se fait instantanément. Et donc c'est la même chose. Israël eux-mêmes, s'ils étaient en Galout le Olam, ça voudrait dire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'endroit qui leur va. Ouais. Comme on a dit que le peuple juif, sa place, c'est d'être birchut atzmam, dans leur propre domaine, pas d'être soumis à quelqu'un d'autre. Ouais. Comme toute chose, chaque chose elle a sa place. En lichad davar, shen lo makom, chaque chose elle a sa place. Et chaque chose est dans son propre domaine en quelque sorte. Chaque chose a sa place. Et donc si on dit que les juifs ils restent en galoute, ça veut dire qu'ils n'ont pas de place. Et qu'on a créé quelque chose qui n'a pas de place. Et on a une inversion. Que ce qui était innaturel, contre nature, est devenu la nature. Et ça, c'est bizarre. Donc, comme on a dit, parce que quelque chose, il reste en place. C'est-à-dire que quand on enlève la contrainte, si quelque chose, on enlève la contrainte, ça reste en place. Alors, ça veut dire que maintenant, la chose, elle a changé. Et d'avoir une contrainte qui est éternelle, c'est quelque chose de pas logique. Parce que la contrainte, c'est un chidouche. Et avoir un chidouche éternel, c'est quelque chose... Si c'est éternel, c'est pas un chidouche, c'est juste c'est devenu une nouvelle loi de la nature. Donc, forcément, dit-il, ça veut dire que le teva originel, le fait que... Donc, en fait, Dieu, il aurait fait un teva inutile. Que le peuple juif, en soi, ils avaient une place, il leur a donné une nature pour pouvoir après casser profondément la nature du peuple juif. C'est-à-dire que le métal, il a des propriétés. Quand je tords le métal, je ne contreviens pas aux propriétés du métal, de ce que Dieu a créé. Dieu a créé des choses, les propriétés elles restent constantes plus ou moins. Ouais. Après moi je peux utiliser ces propriétés comme j'en veux. Mais le peuple juif, pour dire que le peuple juif il est en galoute éternellement, ça veut dire qu'il a cessé, il a perdu ses premières propriétés. Donc Dieu a créé quelque chose pour en fait le changer plus tard. Et ça c'est « En kol chadash achat hashemesh ». Les propriétés profondes du peuple juif, elles ne peuvent pas changer. En kol chadash achat hashemesh, ça veut dire que les propriétés des choses ne changent pas. Nous, on va découvrir des nouvelles utilisations de ces propriétés-là. Il n'y a pas un changement radical. On n'est pas capable de modifier, de créer des nouvelles propriétés. Elles étaient déjà là, mais on les exploite. De dire que le peuple juif, il est pour toujours en galoute, ça veut dire qu'en fait, le peuple juif, il a changé de nature et que la nature première que Dieu l'a donnée, elle a cessé d'exister. Mais ça, c'est pas comme ça que Dieu dirige le monde. C'est pas logique. En kol chadash achat hashemesh. Mais il y a plus que ça, en fait. Il y a quelque chose qui est... C'est qu'en fait, le peuple juif, il reste attaché à Eretz Israël. Donc ça montre qu'en fait, il n'a pas changé de nature.
Mais s'il n'est pas du tout sur la terre.
Mais il reste attaché. Ça veut dire qu'en fait, il reste attaché. Il y a plein d'empêchements qui nous empêchent d'y aller. Mais le peuple juif, dans toute l'histoire, il était attaché à sa terre. Donc ça, c'est un siman que cette nature, elle n'a pas disparu. Il dit ça, c'est la galoute, le fait qu'on soit soumis à d'autres. Mais la galoute, il y a un deuxième aspect de la galoute, c'est le fait qu'on soit éparpillé. La galoute, c'est aussi l'éparpillement du peuple juif. Le fait qu'on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Il y a des juifs de tous les côtés, mais ils ne sont pas ensemble. Pourquoi ? Parce que chaque chose, elle veut revenir à sa place, comme on a dit. Et donc, en fait, en tout cas, c'est clair qu'au niveau de l'humain, c'est évident qu'un homme, il cherche à appartenir à sa communauté. Pas seulement à une communauté, mais en fait, même quand quelqu'un il dit « je me suis retrouvé », ouais, c'est une nouvelle communauté, mais il retrouve quelque chose qui lui appartenait en propre. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui lui manquait, qu'il a retrouvé là-bas. On ne trouve rien, on retrouve. Je me suis retrouvé dans cette communauté, je me suis retrouvé dans cette chose-là. Et le peuple juif, en fait, on voit bien qu'au fond, même si on n'y arrive pas, voilà, mais on désire la hardoute. Ouais. On désire la hardoute, même si on n'y arrive pas. Et on va voir après que la désunion dans le peuple juif, c'est quelque chose de très profond. Ça remonte déjà à Yaakov Avinu, avec Rachel et Léa. C'est quelque chose de très ancien, de très profond. Mais au fond, ce qu'on désire, c'est la hardoute. Et donc, le manque de hardoute, le pizour, le fait qu'on soit éparpillé, le fait qu'on ne se rassemble pas, c'est quelque chose qui est... C'est quelque chose qui est quelque chose de pas naturel. Le fait qu'on n'arrive pas à se rassembler, c'est quelque chose de pas naturel. Parce que naturellement, on sait, trois juifs dans une ville, ils vont finir par se retrouver. Après, ils vont se disputer, mais c'est un autre problème. Mais ils vont se retrouver ensemble d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et donc, c'est un peu l'idée que même dans la nature, après, c'est encore une fois ça, je ne sais pas comment on va traduire, mais au niveau de l'humain, c'est sûr que c'est vrai. Au niveau de l'idée du monde, c'est sûr que c'est vrai que les choses, elles cherchent à ne pas être seules. Ouais, les animaux, ils ont tendance à être en horde, en meute, etc. Les humains, un humain, il n'aime pas être seul. Un humain, il n'aime pas être seul, il aime être avec des gens comme lui. Les Français à Londres, ils sont dans un quartier, on appelle ça Frog Valley. Ouais, la vallée des grenouilles. Ouais, c'est connu. C'est-à-dire, mais je ne parle pas des juifs français, je parle des Français, des expatriés. Voilà, non, mais en fait, tous les peuples, quelque part. Voilà, mais en fait, c'est pas que les Français ça qui disent, c'est que c'est la nature des gens, et quelque part, la nature des choses, c'est que s'il y a quelque chose. Parce qu'en fait, deux pierres, elles n'ont rien à faire ensemble. Il n'y a rien qui les relie ensemble. Mais des choses qui ont à voir ensemble, elles vont avoir tendance à se retrouver. Dans la physique, ça se réalise, je ne sais pas, mais.
Là, il explique que, bon, alors, c'est pas normal que. Il y a une galoute, c'est pas normal que les choses soient en dehors de leur contexte naturel, c'est pas normal qu'il y ait un pizour, c'est pas normal que Israël soit éparpillé, mais au final, on dit que de fait il y a la galoute, de fait il y a des Oumot qui sont moshim, des Oumot acherot, alors qu'il dit que c'est pas normal. Donc comment.
Parce qu'en fait il y a une tension. Parce que là, ça qu'il dit, c'est qu'en fait forcément il faut dire que ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas un changement de nature, parce que dire qu'il y a un changement de nature, c'est pas logique. Ce qu'il faut dire, c'est que comme on a dit, à chaque moment de la galoute, Dieu il applique une force de galoute, c'est-à-dire qu'il nous impose la galoute.
En gros, attends le retour de manivelle, quoi.
Ou
le retour de l'attention.
Voilà, dès que ça lâche, bah en fait, naturellement, le peuple juif va reprendre ses dimensions, un peu comme l'exemple d'un ballon qu'on compresse, et il y a une pression, mais dès qu'on lâche, ça reprend ses dimensions normales. C'est ça qu'il vient dire. Donc tu vois que c'est quelque chose qui n'est pas naturel, et quelque chose qui n'est pas naturel, ça ne tient pas.
Oui, mais regarde, il dit un truc comme ça. אבל שארו מות לפי סדר המציאות ראוי לכל שכל אומה ואומה מצד שנבראה לעצמה שלא תהיה רשות אחרים עליה.
ופורטן.
Oui, pourtant, on voit bien qu'il y a des... Il y a eu des époques où...
Mais ça n'a pas tenu, c'est oui, quelque chose d'artificiel.
Donc tu veux dire, c'est là où on prouve, c'est que le fait, c'est que ça ne tient pas éternellement.
C'est artificiel, et ce qui est artificiel ne tient pas parce qu'en fait, il faut maintenir une tension.
Ou alors, t'as des nations ou des civilisations qui disparaissent. Quoi.
Mais comme on a dit, comme
parce le. Parce que lui-même, le Maharal, il explique dans un endroit, t'as le principe de.
Oui, mais c'est comme on a dit, c'est comme dans le métal. La propriété du métal, c'est qu'à un certain niveau de tension, elle se tord. À un certain niveau de tension, elle va perdre sa forme.
Okay,
donc ça fait partie des propriétés. Mais dis, mais dans le peuple juif, qu'on ait une propriété fondamentale et que ça disparaît, c'est pas logique. Qu'il donne une propriété tellement forte et que ça disparaît, c'est pas logique, quelque chose de pas naturel. Le fait que les peuples aient une courbe, ça fait partie de la nature des peuples. Mais ce n'est pas qu'ils sont soumis, c'est qu'ils disent... Un peuple, il n'est jamais soumis, il disparaît. Il est arrivé, c'est la décadence en fait. Ouais, Rome, ils ont une décadence et après il y a un autre peuple qui prend la place. Mais parce qu'ils n'ont pas été soumis. Rome n'a pas disparu parce qu'ils ont été envahis par les Mongols. Les barbares ont envahi Rome parce que Rome était décadente. Il ne faut pas inverser les causes. Oui. Donc en fait, l'idée est comme on dit, qu'en fait, on est en galoute parce que Dieu, il nous garde en galoute. Pas un état naturel. Donc forcément, puisque c'est pas naturel, ça a une fin. Parce que sinon, il faudrait dire quelque chose qui se maintient constamment. Comme on a dit, c'est une nouvelle loi. C'est une nouvelle loi et un kol chadash achadash lemesh. D'accord, on va s'arrêter là, ça vous dérange pas ?
Non, c'est mieux. Voilà. On continue ? Non, pas aujourd'hui, mais je parle la semaine prochaine.
Ouais. C'est bien 9h30, c'est vrai, parce que moi, je 9h, ça ne m'allait pas, mais 9h30, c'est bon.